France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences. Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la marche des sciences. Nouvelle année, nouvel horaire, 16h, la belle heure, désormais pour toutes les émissions sciences de France Culture, et puis toujours en direct. Alors, bonne année à tous. Et pour démarrer cette année 2016, retour aux sources, aux racines, aux origines, je vous propose de vous immerger dans l'histoire délaissée jusqu'à ce jour de la maternité et de la petite enfance en Égypte ancienne.
Je rendrai ses concubines fécondes pour porter des enfants mâles et femelles comme des graines qui sont venues de son corps à lui. Nous ferons en sorte qu'elles conçoivent des enfants mâles et femelles. Nous ferons en sorte qu'elle soit en bonne santé. Nous ferons en sorte que ce qu'elle porte vive. Nous ferons en sorte qu'elle soit enceinte avec une délivrance heureuse.
Être mère en Égypte ancienne, un voyage périlleux. C'est le sentiment que l'on ressent à la lecture du livre « Maternité et petite enfance en Égypte ancienne » paru aux éditions du Rocher, un ouvrage écrit par Amandine Marshall, docteur en égyptologie, chercheur associé à la MAFTO, la mission archéologique française de Thèbes Ouest, et donc ce livre qui vient combler un vide réel sur ce terrain. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun livre sur la vie quotidienne des Égyptiens anciens ne s'est intéressé à ces étapes marquantes de la période prédynastique à la période romaine. Pourquoi ce peu d'intérêt de la part des égyptologues ? L'ampleur des recherches à mener dans divers champs scientifiques, iconographie, archéologie, médecine, littérature, ethnologie, épigraphie, anthropologie notamment, aurait-elle eu raison des meilleures volontés ? Et pourtant, ce que racontent ces temps forts de la vie, la grossesse, la naissance et la petite enfance de cette période ancienne, est d'un apport évident à la compréhension de notre histoire. Avec nous, en direct sur France Culture, Amandine Marshall pour interroger ce temps des pharaons et le comédien Philippe Lodenbach pour faire revivre textes et extraits d'archives exhumés par notre invité. Et puis en seconde partie d'émission vers 16h45, en partenariat avec le magazine Pour la Science, nous nous intéresserons à la vie et l'œuvre d'Edmond Paris. Edmond Paris, un amiral devenu une figure incontournable de la marine du 19e siècle, passionné par les bateaux depuis les pirogues qu'il a dessinées et répertoriées dans ses périples de jeunesse autour du monde, jusqu'aux bateaux à vapeur dont il a facilité l'utilisation et l'essor. Un marin et un savant, homme de la transition entre la voile et la vapeur, un homme devenu directeur du musée de marine du Louvre, et c'est Géraldine Baron, archiviste paléographe et conservatrice à la bibliothèque de l'Université du littoral Côte d'Opale à Calais, qui nous fera entrer dans son univers. Elle est l'auteur, je le précise tout de suite, de l'article Edmond Paris de la pirogue au bateau à vapeur, un article à retrouver en page Histoire des sciences du magazine Pour la science de janvier. Mais sans plus attendre, direction l'Égypte ancienne. Bonjour Amandine Marshall.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous doit donc ce livre rare, hein, puisque maternité, naissance et petite enfance, on a vraiment le sentiment que c'est un sujet qui est resté délaissé, en tout cas à peine effleuré peut-être. Et on se dit, mais pourquoi ce manque, en tout cas, que vous venez combler heureusement ?
C'est la question effectivement que je me suis posée moi-même quand j'ai commencé à travailler. Alors d'abord sur l'enfance en Égypte ancienne, qui était mon sujet de thèse. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que jusqu'à en fait la déclaration des droits de l'enfant, le sujet de l'enfant n'intéressait vraiment absolument personne. Et que c'est vraiment à partir de ce moment-là où on reconnaît les droits de l'enfant, qu'en parallèle, dans le milieu scientifique, on va commencer réellement à s'intéresser aux enfants.
Et alors du coup, vous avez aussi réalisé, en plongeant sur ce terrain, que cette recherche était un peu semée d'embûches, hein, puisqu'il y avait des types de fonds à exploiter, peut-être à exhumer, des sources lacunaires, des questions qui restent et encore aujourd'hui sans réponse. Un travail pas facile.
Un travail pas facile, mais vraiment passionnant. Pas facile parce qu'effectivement, les sources qu'on a sont, je dirais, de façon générale, des sources indirectes qui nous viennent essentiellement des élites et surtout des sources qui nous viennent des hommes adultes, donc pas des femmes. Donc en fait, on connaît l'histoire et on appréhende l'histoire de la maternité, de la grossesse et de la petite enfance finalement à travers un prisme qui est relativement restreint et qui est celui des hommes de l'élite.
Et puis en même temps, l'approche que vous avez dû aussi avoir, c'est celle d'une chercheuse pluridisciplinaire, j'ai envie de dire, parce que vous avez vraiment investi différents champs variés et pour sentir au plus près ce thème-là qui suscite aussi des aspects différents.
Tout à fait. Et effectivement, il s'agit de quelque chose qui est très important, de croiser un maximum de données, de disciplines, pour avoir une approche qui soit la plus proche possible justement de ce qu'était la réalité antique, sachant que bien évidemment, on ne fait que la toucher du doigt, mais de façon plus générale,
oui.
La thématique de la maternité et de la petite enfance en Égypte ancienne, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui, et malgré ce livre, malgré ces recherches et justement ce croisement de données, quelque chose qui reste encore très éloigné justement de l'intimité. On entreaperçoit beaucoup de choses, on a beaucoup de données, mais ça reste encore quelque chose qui garde certaines partie énigmatique.
Bon, et peut-être aussi au fil des recherches archéologiques, des découvertes dans le futur, apprendra-t-on d'autres éléments et on pourra peut-être venir combler aussi ces manques et ces questions et répondre à ces questions en suspens. En tout cas, vous avez aussi choisi, Amandine Marshall, de travailler sur une période très longue, de la période prédynastique, donc moins 4500 avant notre ère, jusqu'à l'époque romaine 476 après notre ère.
Oui, alors l'intérêt était multiple. D'une part parce que en croisant justement des données sur une période aussi longue, on voit bien, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines, que la conception de la maternité, de la grossesse évolue au cours du temps, que ce n'est pas quelque chose qui est figé, ce n'est pas quelque chose qui est statique ou univoque. Et ensuite, et c'était aussi une part du problème en travaillant sur ce sujet, on a des sources qui se révèlent à certaines périodes, par exemple des textes, qu'on va avoir essentiellement à partir du Moyen-Empire. Donc là, le Moyen-Empire, on est aux alentours de 2100, à peu près 1700 avant Jésus-Christ. Donc avant cette période-là, ça fait qu'au niveau des textes, par exemple, médicaux, magiques, on n'a absolument rien. Donc on peut supposer qu'il y avait quand même une certaine tradition orale qui a perduré au fil du temps, une certaine conception et connaissance. Mais le problème aussi, c'est que selon les périodes, on n'a pas forcément les mêmes documents, les mêmes données, ou parfois même, on a des documents comme les décrets oraculaires qui vont arriver beaucoup plus tard dans l'histoire égyptienne.
Mais alors justement, on se pose cette question-là quand on pense à cette histoire de l'Égypte ancienne. Sur quelles sources travaille-t-on ?
Absolument toutes les sources. Ça peut être aussi bien des données iconographiques. Alors pour justement le sujet de la maternité, de la petite enfance, là, pour une fois, on n'a vraiment pas beaucoup de données iconographiques exploitables. Par contre, on va avoir des textes, donc des textes qui peuvent toucher à la religion, des textes qui peuvent toucher au monde des morts, des textes qui peuvent toucher à ce que nous on appelle aujourd'hui, enfin ce qu'on dissocie aujourd'hui comme la médecine et la magie, mais qui pour les Égyptiens était en fait une seule et même chose. On peut aussi travailler sur des objets, comme par exemple les ivoires magiques qui servaient à la fois la protection de la femme enceinte et de l'enfant nouveau-né. Sur des objets alors qui peuvent être aussi beaucoup plus rares, comme les briques de naissance. Pour l'instant, on n'en a retrouvé qu'une seule. Donc, autant vous dire que c'est vraiment des découvertes
précieux,
particulièrement exceptionnelles. On peut donc travailler sur vraiment diverses sources. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a parfois des réminiscences culturelles, des permanences culturelles qui permettent de faire un pont entre ce qui se passait dans l'Antiquité et ce qui se passe encore aujourd'hui dans les campagnes égyptiennes.
Et on va avoir l'occasion d'en parler. Alors, vous disiez, vous le citiez, Amandine Marshall, bien sûr, à cette époque-là, il y a un vrai lien avec aussi les contes, les croyances, les mythes. Donc la place des dieux, on va en prendre la mesure tout de suite avec Philippe Lodenbach qui va nous lire un autre document que vous proposez dans votre livre.
Alors Isis elle-même se plaça devant elle, Nephthys était derrière elle et Hekate accélérait les naissances. Alors Isis dit, ne sois pas trop fort dans son ventre, on se tient non d'Ouséref. L'enfant glissa alors sur ses deux mains en tant qu'enfant d'une coudée dont les os étaient solides. Ses membres apparurent en or et sa coiffure était en lapis-lazuli véritable. Elles le lavèrent alors, après avoir coupé son cordon ombilical et l'avoir placé sur une brique. Puis Mesquenet se présenta elle-même à lui. Elle déclara « Un roi qui exercera la royauté dans son pays ». Puis Knoum fortifia son corps.
Très beau texte, Amandine Marshall, qu'on retrouve dans votre livre donc intitulé « Maternité et petite enfance en Égypte ancienne », paru aux éditions du Rocher. Alors ce temps de la maternité, on se rend compte très vite cette importance justement dans les familles des dieux, des contes, des mythes, et aussi l'importance de l'enfant, parce qu'il n'y a pas de famille sans enfant.
Tout à fait, l'enfant est vraiment la condition pour avoir une famille, et très souvent on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour la femme, puisqu'effectivement la femme qui n'a pas d'enfant peut être répudiée, mais c'est également quelque chose de très très important pour l'homme. On a des textes qui nous montrent que l'homme qui n'a pas d'enfant est moqué par ses pères, on lui enjoint d'adopter s'il ne peut concevoir. Donc pour l'homme, ne pas avoir d'enfant, c'est vraiment quelque chose qui est tout aussi important que pour la femme.
Donc une vraie pression sociale.
Tout à fait.
Donc à la fois, vous dites, sur l'homme et sur la femme. Parce que finalement, les femmes infécondes peuvent être répudiées. Elles ont d'autres sorts. Est-ce qu'on on en sait quelque chose sur ce terrain-là?
Alors non, on n'a absolument pas de texte, mais effectivement, sur leur sort. Mais oui, par contre, On sait qu'effectivement, la répudiation menace toute femme qui ne peut pas porter d'enfant.
Alors de quelle façon est-ce qu'on représente la femme enceinte et l'enfant dans ces époques anciennes?
Alors on a très très peu de représentations finalement de femmes enceintes. Les femmes qui le sont, alors vraiment, il faut avoir l'œil aguerri pour à se rendre compte que la femme est enceinte, parce que c'est vraiment quelque chose
très léger.
Très léger. On rêverait beaucoup être enceinte et avoir une silhouette aussi fine que les Égyptiennes représentées enceintes dans l'iconographie égyptienne. Alors là aussi, on n'a pas de texte, donc c'est toujours un peu compliqué ou délicat en tout cas de l'interpréter. On pense que c'était tout simplement pas très représenté, parce que ce temps-là étant un temps qui était quand même particulièrement difficile et parfois dangereux aussi pour la femme, on préférait tout simplement en fait représenter la femme avec son enfant, ce qui signifiait que l'accouchement s'était bien passé et que l'enfant était viable.
D'accord. Et alors, est-ce que dans cette pression sociale quand même qui existe sur les couples, est-ce qu'il y a aussi une pression pour avoir plus un garçon qu'une fille, par exemple? Ou alors, la préférence de sexe n'existe pas?
Alors, ce que l'on en sait, bien évidemment, c'est par rapport aux élites, puisqu'on ne sait pas du tout comment surtout fonctionner et penser les personnes du commun des mortels, puisque ce ne sont pas eux qui nous ont laissé des textes. Donc, dans les élites, on se rend compte qu'effectivement, le garçon a une importance donc un peu plus forte que la fille, tout simplement pour des questions, on va dire, évidentes à cette époque-là. Le garçon est celui qui va s'occuper de ses parents quand ils seront devenus vieux. C'est aussi celui qui va reprendre la succession de son père, pour qu'il y ait aussi une sorte de tradition familiale donc au niveau de la profession. Et dans les élites toujours, c'est le fils seul qui pourra conduire le culte funéraire de son père, donc qui permettra justement la perpétuation de son nom. Mais pour autant, les filles ne sont pas exclues, dénigrées, méprisées, comme parfois on a pu le penser. Au contraire, on a des textes qui nous disent qu'on souhaite aux femmes qu'elles aient autant des garçons que des filles. Et vraiment, dans la pensée égyptienne, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut qu'il y ait cette notion d'équilibre. Et une famille, une belle famille, une famille équilibrée, c'est une famille qui a autant de garçons que de filles.
Alors avant de basculer vers le côté plus médical, entre guillemets, le rôle des médecins dans ces époques anciennes, même si, vous l'avez nous expliqué, on les appelait pas forcément comme ça à l'époque, restons sur vraiment ce foyer, le côté homme, femme, couple, et puis famille et société élargie. De quelle façon est-ce qu'on fait intervenir ces divinités pour assurer une fertilité ou ne serait-ce qu'un accouchement plus facile?
Alors, il y a différents moyens. On peut tout simplement se rendre au temple pour prier la divinité, en apportant en général une offrande pour être un peu plus sûr que la prière soit entendue ou exaucée. À partir du Nouvel Empire, on a ce qu'on appelle des décrets oraculaires, où en fait, on sollicite la divinité, donc là aussi avec des offrandes qui l'accompagnent. Et l'oracle est censé répondre, donc donner en fait la réponse des dieux sur des petits rouleaux de papyrus, où on a des réponses complètement standardisées, où justement, c'est notamment un des exemples que je citais tout à l'heure, où on peut avoir comme réponse, nous lui donnerons des enfants mâles et femelles. Mmh. Donc ça, c'est un des moyens. On peut aussi solliciter les divinités au travers de statuettes, qui vont être des statuettes autant de femmes que d'enfants. On peut les solliciter aussi au travers d'amulettes, des amulettes que les femmes elles-mêmes vont porter pour susciter une fécondité. Il y a vraiment divers biais. C'est, voilà, chacun a un panel de possibilités et puis il va utiliser celles qui lui conviennent le mieux.
Donc c'est très présent hein, dans cette société, même si, comme vous le disiez, il n'y a pas forcément une iconographie qui représente plus largement les femmes enceintes. Alors basculons, si vous le voulez bien, Amandine Marshall, du côté justement du rôle des médecins dans ces époques anciennes. Et on va tout de suite en prendre là aussi la mesure avec un extrait du papyrus médical de Berlin faisant état d'un traitement suscitant la fertilité de la femme.
Tu devras la fumiger avec de l'épeautre, Mimi, dans son vagin, jusqu'à ce que cela cesse, afin de permettre que la semence de son mari soit reçue. Tu devras lui préparer des remèdes jusqu'à ce que cela soit débloqué. Graisse, huile, 5 euros. Bière douce, 5 euros. Ce sera cuit et absorbé 4 matins de suite.
Amandine Marshall, allez, plus d'éléments sur ce texte, parce qu'il est important, je crois.
Tout à fait. Alors, d'abord, une première précision pour les auditeurs. L'unité de mesure, l'euro, oui, qui est employée, correspond à peu près à 60 décilitres.
D'accord.
Donc, effectivement, on va avoir plusieurs possibilités donc, pour susciter la grossesse. Donc, on a bien évidemment les dieux. On peut aussi recourir aux revenants, puisque dans l'Égypte ancienne, il y a une forte présomption d'interaction justement entre les morts et les vivants. Donc, certains peuvent être bienveillants. On va les solliciter pour une grossesse, alors que d'autres peuvent se montrer malveillants et, par exemple, être rendus responsables de l'infertilité d'une femme. On peut aussi solliciter les médecins. Alors, quand il faut faire attention, parce que voilà, justement, c'est une nuance qu'il faut avoir par rapport à l'Antiquité. Aujourd'hui, on distingue très très clairement la science médicale et la science magique. En Égypte ancienne, on n'avait pas cette barrière. Le médecin pouvait pratiquer aussi la magie, tout comme le magicien pouvait aussi pratiquer ce que nous, on appelle aujourd'hui la médecine.
Donc, ils avaient un rôle de devin, finalement. Tout était mélangé.
Absolument mélangé. Donc quand on a par exemple un problème, un mot à traiter, on va recourir à différentes choses. Donc nous aujourd'hui on fait une part des choses entre ce qui nous paraît être plutôt relevant du domaine de la magie ou du domaine de la médecine. En Égypte ancienne, le médecin a lui aussi tout un éventail de possibilités. Et donc il n'y a pas forcément une gradation, on ne va pas trouver que cette formule-là est peut-être plus importante ou plus efficace qu'une autre. En fait, c'est vraiment selon le bon vouloir du médecin magicien ou aussi des ingrédients qu'il peut avoir à disposition.
Alors justement, vous parlez des ingrédients, parce que là, on en a eu un avant-goût dans cet extrait du papyrus médical de Berlin. Et d'ailleurs, pourquoi papyrus médical de Berlin ? Parce qu'il a été découvert non ?
Parce que ça, c'est une précision.
C'est une bonne question.
Conservé à Berlin, je suppose.
D'accord. Donc, ces documents-là montrent qu'il y a des recettes. Et c'est toute la question des prescriptions, des posologies données aux femmes pour qu'elles tombent enceintes. Il y en a de multiples. Hein. On se rend compte qu'il y avait vraiment une variété de là, il y a de l'épeautre, la bière. On va utiliser d'autres éléments. Qu'est-ce qu'on sait de cette vraie connaissance, finalement, de l'usage de tel ou tel produit sur le corps de la femme et sur la conception?
Alors déjà, avant toute chose, ce qui me paraît important de préciser, c'est que, parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises, que parfois les Égyptiens avaient des recettes ou des potions qui étaient farfelues. Alors attention, ça c'est un jugement qu'on émet aujourd'hui, c'est notre regard moderne avec la science qui nous permet d'avoir quand même une meilleure connaissance du corps ou des effets de tous les produits qu'on peut utiliser qui nous permet de dire ça. En Égypte ancienne, rien n'est farfelu. Si on le fait, c'est qu'on pense que ça marche. Donc ça, c'est déjà le premier point à souligner. Donc là, effectivement, pour la grossesse, on peut avoir plusieurs possibilités de traitement à suivre. On pouvait en avoir aussi pour la contraception, avec par exemple, je pense à une méthode de contraception assez particulière qui recourait aux excréments de crocodile à fumiger dans le vagin de la femme.
Bon, très pratique. Voilà,
quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose va dire, mais c'est n'importe quoi.
Oui, c'est hallucinant.
C'est n'importe quoi pour nous aujourd'hui, puis surtout quand on sait les effets absolument terribles que cela pouvait entraîner.
Oui.
À cette époque, pour les Égyptiens, ce n'était bien évidemment pas quelque chose de farfelu, c'était quelque chose qui était complètement fondé, puisque en fait, le crocodile peut être un animal sétien, c'est-à-dire attaché au dieu Seth, qui est le dieu du mal et du chaos. Donc l'idée était d'introduire à l'intérieur du vagin de la femme un élément qui allait perturber le cours naturel, qui serait que la femme devienne enceinte. Donc pour nous aujourd'hui, on a un regard qui est tellement plus rationnel que ce genre de choses nous paraît absolument invraisemblable, mais ça ne l'était pas pour les Égyptiens. Donc, il en est de même, bien évidemment, pour les traitements à suivre
bien
durant
sûr.
La grossesse.
Et on n'a pas forcément les éléments, les textes qui nous parlent aussi des conséquences ou des réactions secondaires après ce genre de traitement. On n'a pas ça, hein, Amandine Marchand.
Non seulement on n'a pas ça, mais si le médecin le dit, c'est que pour lui, c'est efficace. Donc, si après ça ne marche pas, qu'il y a des problèmes.
C'est pour d'autres raisons, c'est ça.
Annexes secondaires, voilà, c'est autre chose.
Alors, en tout cas, ils ont quand même cette connaissance du corps de la femme. Et là, il y a un texte qui va nous en dire un peu plus et on va se rendre compte qu'il y a des similitudes avec aujourd'hui.
Autre moyen de voir, tu devras faire en sorte qu'elle se tienne debout dans le renforcement de la porte. Si tu trouves des similitudes à ces deux yeux, un œil comparable à celui d'un Asiatique, l'autre à l'œil d'un Nubien, elle n'accouchera pas. Si tu les trouves ayant une seule couleur, elle accouchera.
Alors on regarde les yeux, mais on regarde aussi le visage. Le fameux masque de grossesse, hein, on se rend compte qu'il y a ces traces-là en Égypte ancienne. Et ça résonne quand même aujourd'hui, puisqu'il y a encore ces méthodes pratiquées pour dire bah, une femme est enceinte si pour l'instant il n'y a pas d'autres éléments qui permettent de le dire.
Tout à fait. Alors c'est ça qui est vraiment très intéressant, puis incroyable aussi pour nous, justement, une nouvelle fois, parce qu'on est tellement dans une société empreinte de technologie, avec une science médicale qui est quand même particulièrement avancée, qu'on en oublie finalement qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait quand même d'autres méthodes aussi. Voilà, les fameuses recettes de grand-mère ou autres potions de sage-femme qui pouvaient aussi indiquer énormément de choses, nous apprendre énormément de choses. On oublie aujourd'hui que finalement, de regarder quelqu'un permet de donner énormément d'informations. Et effectivement, certains des suggestions du médecin pour savoir si la femme est réellement enceinte ou pas sont vraiment des choses avec une base scientifique qui s'explique et qui finalement montre qu'à l'époque, finalement, avec les moyens du bord, on arrivait quand même à savoir beaucoup de choses.
Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient aussi inventé les tests de grossesse ? Quelque part.
Alors, plus que quelque part, ouais. Puisqu'effectivement, les plus anciens tests de grossesse que l'on connaisse viennent effectivement de l'Égypte ancienne. Et des tests qui, ma foi, étaient quand même plutôt efficaces. Donc, une nouvelle fois, un traitement qui, de prime abord, peut paraître un peu farfelu. Il s'agit de faire, donc la femme que l'on suppose être peut-être enceinte doit uriner sur deux sacs. Dans un sac, on a du blé, des dattes et du miel. Dans l'autre, on a, donc ce n'est plus du blé, c'est de l'orge.
Oui.
Et donc, en fait, le but du test, donc la femme va uriner à plusieurs reprises sur ces deux sacs.
Et avant de donner la suite, on va donner la parole justement à celui qui l'a écrit peut-être. Et on y revient dans un instant, Amandine.
Autre moyen de voir si une femme enfantera ou si elle n'enfantera pas, orge et blé amidonier que la femme humectera de son urine chaque jour, ainsi que des dattes et du sable mis dans deux sacs séparés. Si ensemble ils se développent, elle enfantera. Si seule l'orge se développe, cela signifie un garçon. Si seul le blé amidonier se développe, cela signifie une fille. S'il ne se développe pas, elle n'enfantera pas.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Alors dites-nous précisément ce texte, si on peut le savoir aujourd'hui, provient d'où ? Parce que on se rend compte dans votre livre, Amandine Marchal, que ce test de grossesse, un botaniste allemand Walter Hoffmann l'a justement enfin pratiqué, en tout cas il l'a testé en 1934, et donc en reproduisant l'expérience, eh bien ça fonctionne.
Alors, il n'était pas le premier à avoir été interpellé par effectivement ce test, pour le moins particulier. On a toute une tradition avec pareil une réminiscence culturelle où on voit que ce test est encore pratiqué au XVIIe siècle en Allemagne. Effectivement, comme d'autres, il va reproduire ce test et se rendre compte que c'est absolument incroyable, mais ce texte est particulièrement efficace. Alors, il est efficace à 100% dans la mesure où si les céréales poussent, effectivement, cela induit que la femme est enceinte. Il est un petit peu moins efficace dans le fait que parfois la femme peut être enceinte, mais les céréales ne vont pas pousser. Donc là, le taux de réussite est quand même de 70%, ce qui n'est quand même pas mal pour l'époque. Mmh. Mais surtout, ce que l'on peut retenir, c'est que si les céréales, donc le blé ou l'orge, poussent, la femme est enceinte à 100%. Donc effectivement, en termes de test de grossesse, c'est quand même assez intéressant.
Et on sait pourquoi, c'était dû à quoi finalement ?
C'était dû en fait à la présence d'une hormone particulière qui se trouve dans l'urine de la femme uniquement enceinte. Ce qui fait que dans les tests, par exemple, de Monsieur Hoffmann, qui veut aussi tester l'urine de femme non enceinte ou même l'urine d'homme, il s'était rendu compte que les céréales ne poussaient absolument jamais dans ces cas-là.
Et alors, il y a des tests qui sont effectués aussi pour savoir, ça va très loin, hein, si l'accouchement sera facile ou périlleux. Retour dans les fonds que vous avez exhumés, Amandine Marchal.
À son coucher, tu enduiras sa poitrine et ses bras jusqu'aux épaules avec de la graisse, huile, neuve. Tu te lèveras le matin pour voir cela. Si tu constates que ses conduits mets sont intègres et parfaits, sans dépression, accouchement calme. Si tu constates qu'ils sont déprimés et de la couleur de sa propre chair superficielle, cela signifie avortement. Si tu constates qu'ils restent intègres entre la nuit et le moment de leur examen, elle accouchera en retard.
Là aussi, étonnant, hein, texte très beau d'ailleurs, tous ces documents-là, fascinant. On sait aujourd'hui, ou peut-être pas, si c'était vérifié, ou ces tests-là n'ont pas été, j'imagine, expérimentés, comme l'avait fait Hoffmann avec le texte précédent. Quels sont justement les...
Alors en fait, les Égyptiens avaient une conception anatomique un peu particulière. Oui, oui. Ils pensaient que l'ensemble du corps était traversé par des réseaux, par des conduits que l'on appelle met en égyptien, et que pour que notamment l'accouchement se passe bien, il fallait que ces conduits soient intègres, donc ils ne soient pas abîmés et qu'ils ne soient pas obstrués. Donc ils avaient diverses méthodes pour vérifier si les conduits étaient obstrués ou pas. Alors notamment une méthode assez particulière et sympathique consistait à introduire à l'intérieur du vagin de la pauvre femme égyptienne, parce que vraiment les malheureuses,
oui, elles ont subi quand même
beaucoup,
on peut le
de
dire,
choses.
Donc le période dangereuse pour elles, parce qu'on l'a pas dit quand même, il y avait quand même 20% je crois de mortalité à l'accouchement, et 30% des enfants qui n'atteignent même plus, hein, peut-être, oui. Et 30% d'enfants qui n'atteignent pas l'âge de 5 ans à l'époque, c'est ça?
Au moins.
Donc alors la pauvre malheureuse subissait donc
en fait à la nuit tombée, on devait introduire une gousse d'ail dans son vagin, et pour s'assurer que ses conduits n'étaient pas obstrués, il fallait que la femme passe la nuit avec donc cette gousse d'ail dans le vagin, et au matin, si elle avait une haleine aillée, cela signifie que ses conduits n'étaient pas obstrués, que du coup l'odeur avait pu circuler librement
dans le corps,
et donc on pouvait ainsi prédire que son accouchement se passerait bien. Donc une méthode un peu particulière. Alors c'est amusant parce qu'elle va être reprise par Hippocrate et par tous ses disciples. Et donc c'est aussi une méthode qui va
perdurer,
s'aimer pendant plusieurs siècles.
Jusqu'au Moyen-Âge ?
Jusqu'au Moyen-Âge.
Alors il y a d'autres méthodes que vous citez, pincement du ventre, observation du visage et des yeux, on en a parlé. Fumigation aux excréments d'hippopotame.
Tout à fait. On en a un petit peu parlé tout à l'heure.
Oui, avec le crocodile aussi.
Avec le crocodile.
Là, c'est l'hippopotame.
Des techniques vraiment particulières. Oui. Donc, je le redis une nouvelle fois, mais c'est vraiment important, qui nous semble absolument incroyable et particulièrement surprenante aujourd'hui.
Mais qui était censée.
Mais qui était complètement fondée pour ceux qui les ont prescrites.
Et la magie toujours présente. Alors, dernier élément, le statut du fœtus dans l'Égypte ancienne, finalement, ce fœtus a une vraie place aussi.
Tout à fait. Pour les Égyptiens, le fœtus est déjà un être en devenir. D'ailleurs, c'est très intéressant. On voit que dans la conception funéraire, le défunt est lui-même un fœtus appelé à revivre dans l'au-delà. Donc le fœtus a vraiment une place concrète. On essaye de le protéger. On va avoir des formules magiques justement pour le protéger à l'intérieur du ventre de sa mère. On va avoir aussi des soins médicaux. Et même, on le voit par-delà, je dirais, sa vie ou sa mort, on a aussi des traces de fœtus momifiés ou de fœtus qui ont été enterrés dans l'Antiquité.
Et dont le plus ancien a été retrouvé dans la tombe de Toutankhamon. Et on a aussi découvert, ce que vous dites, ces fœtus qui pourraient être presque des reliques religieuses, alors, capables de régénérer le mort.
Alors ça, c'est par contre aux époques tardives, mais effectivement, oui. On trouve des fœtus qui sont parfois placés dans des statuettes d'Osiris, le dieu des morts, ou de Bès, le dieu protecteur des enfants. Donc là, alors sans texte, une nouvelle fois, il faut toujours faire attention à ce qu'on peut en dire, mais effectivement, on pense que dans ces cas bien précis, où justement, ils n'étaient pas enterrés, au contraire, ils étaient exhibés en quelque sorte dans ces statuettes funéraires, justement, il devait y avoir une idée de relique à l'intérieur de ce fœtus qui est appelé à naître ou à renaître.
Allez, à ce stade de l'émission, Amandine Marshall, c'est l'heure de votre choix musical. Et nous avons retenu Perdidos de Monchy et Alexandra. Il est 16h32 et c'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture, en direct et en compagnie d'Amandine Marshall, docteure en égyptologie, chercheure associée à la MAFTO, la mission archéologique française de Thèbes Ouest. Et Amandine Marshall vient de faire paraître aux éditions du Rocher un livre très précieux, une histoire inédite, maternité et petite enfance en Égypte ancienne, l'histoire de ces moments forts dans la vie des Égyptiens anciens, de la période prédynastique à la période romaine, et toujours avec nous en studio, Philippe Laudenbach. Alors, le temps de la naissance et des relevailles, les suites de couches, là aussi, Amandine Marshall, on se rend compte que c'est très peu documenté.
Tout à fait, c'est très peu documenté, une nouvelle fois, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui intéressait les adultes hommes, tout simplement. Donc, on a extrêmement peu d'allusions à ce sujet.
Par contre, on sait qu'il y a des incantations des dieux, des protections qui sont déployées pour assurer un accouchement qui se déroule bien.
Tout à fait. Là, on a vraiment un grand renfort de dieux. On a énormément
une dizaine connue d'incantations, et encore avec beaucoup qui ne sont pas connus à ce jour, et le rôle des fameux ivoires magiques aussi.
Tout à fait. Qui sont en fait donc des ivoires d'hippopotame en général, qui sont donc retravaillées. Donc la lame va être retravaillée. D'une part, on va avoir des illustrations, des dessins qui sont gravés, donc qui vont représenter différents génies, des animaux qui peuvent être dangereux, qui peuvent être néfastes en temps normal, mais qui là, en fait, deviennent des animaux positifs, puisqu'en fait, leur côté négatif ou dangereux va se focaliser justement sur tout ce qui est mauvais esprit ou revenant qui pourrait vouloir s'attaquer à la femme enceinte au moment de l'accouchement ou au nouveau-né. On peut avoir aussi, c'est un petit peu plus rare, des formules de protection sur ces ivoires. Donc on n'a pas de texte qui nous parle directement de l'utilisation des ivoires, donc on ne sait pas si on les agitait, si à un moment donné on les utilisait de façon concrète, par exemple en faisant un cercle de protection. Mais par contre, par rapport aux inscriptions et par rapport aussi à l'iconographie retrouvée sur ces ivoires magiques, on sait qu'ils servaient vraiment à deux temps, donc le temps de la naissance et ensuite la protection du nouveau-né.
Alors pendant l'accouchement, qu'est-ce qu'on sait des personnes qui entourent la parturiente ? Est-ce qu'il y a des sages-femmes ? Les médecins sont là ?
Alors en fait, on a un seul texte qui vraiment nous parle d'un accouchement en Égypte ancienne. Et il nous provient d'un conte. Donc c'est une simple servante qui en fait va accoucher successivement de trois rois qui sont les trois premiers, donc trois souverains de l'ancien empire. Donc là, on est dans l'univers du conte, on est dans quelque chose qui est un petit peu magique, donc c'est vrai que c'est, on peut difficilement transposer l'arrivée des divinités venues la seconder dans le quotidien des Égyptiens. Et donc, en dehors de ce texte, on n'a pas de mention précise de qui assistait à l'accouchement. Donc, à plusieurs reprises, j'ai lu, en faisant mes recherches, qu'il n'y avait pas d'homme, en tout cas de médecin homme, au moment de l'accouchement. D'une part, rien n'est prouvé, puis surtout, on a des textes, donc bien sûr, ils ne sont pas personnalisés, mais on a quand même des textes de médecins qui disent, au moment de l'accouchement, voilà, s'il se passe tel ou tel problème, voilà ce qu'il faut faire. Donc, on peut quand même penser que si le médecin, à un moment donné, évoque ce genre de problème, c'est que lui-même a assisté une fois ou plusieurs fois, justement, à des accouchements. Et puis, ces textes qui sont compilés sont des compilations à l'attention des médecins, d'autres médecins. Donc on peut quand même penser qu'il y avait des médecins hommes qui assistaient, alors pas forcément de façon systématique, mais ça a pu arriver que des médecins hommes assistent aux accouchements. Et puis bien évidemment, il y avait alors des sages-femmes qui pouvaient être des sages-femmes de profession ou tout simplement des personnes, des proches de la famille ou des voisines ou des amis. Ah oui. Qui venaient assister et aider, surtout à ce moment périlleux.
Et alors on accouche accroupi au-dessus de la fameuse brique de naissance.
Tout à fait. Alors ça, c'est une technique qui est en fait, alors ça je l'ai appris en faisant ces recherches, qui est la technique la plus naturelle et la plus douce en fait pour la femme, donc pour l'accouchement. Donc ces briques de naissance permettent de surélever un tout petit peu la femme, ce qui permet donc un accouchement un peu plus facilité aussi pour les sages-femmes qui doivent aider. Donc il y a deux ou quatre briques de naissance sur lesquelles la femme se place. Et donc les textes nous parlent, donc c'est toujours des mentions très 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 succinctes, mais effectivement des mentions qui nous parlent. On a aussi une représentation iconographique qui est assez tardive, mais qui reflète aussi cet accouchement particulier, donc en position accroupie sur les briques.
Et la fameuse brique dont vous nous parliez précédemment, elle est toute décorée sur chacune des faces, et celle-ci
oui.
Avec des
alors
dessins.
C'est une découverte qui est absolument exceptionnelle, qui est relativement récente, qui a été réalisée dans la cité d'Abydos, la cité du dieu des morts Osiris, dans le sud de l'Égypte. Donc dans la résidence en fait du maire de la cité, on a trouvé dans une des pièces de sa maison une brique de naissance, alors qui est, on va dire, quand même plutôt bien conservée. Alors c'est sûr qu'elle est un petit peu amochée sur un certain côté, elle a été un petit peu écrasée, puis bon, vu ce qu'elle a subi auparavant, c'est quand même normal, c'est une brique de terre crue, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour perdurer au fil du temps. Donc une découverte exceptionnelle, et qu'il est d'autant plus qu'effectivement, on a pu se rendre compte que chacune des faces était peinte à l'origine de scènes de protection, tout simplement. Donc certaines sont particulièrement mal conservées, mais d'autres montrent par exemple une femme que l'on pense être la déesse Hathor, qui est entouré de servantes et qui vient de donner naissance à un garçon. Alors garçon, on le sait parce qu'il a la peau de couleur beaucoup plus sombre, donc de couleur brun-rouge, qui est la couleur que l'on attribue en général aux hommes, alors qu'on va peindre plutôt les femmes avec une peau beaucoup plus claire, en général de couleur jaune.
Voilà, à partir de là, l'enfant est désormais entré dans la vie, mais finalement, il va rester sous haute surveillance, c'est ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à l'âge de 5 ans. Il y a vraiment risque de mortalité important pour ces jeunes enfants. Et puis, tout ça, on se rend compte que ça rentre, et ça va même beaucoup plus loin dans la vie des Égyptiens. De l'Égypte ancienne, dernier texte qui va nous permettre d'en prendre la mesure.
Quelques papyrus du Moyen Empire, du Nouvel Empire et peut-être aussi de la troisième période intermédiaire, ainsi que quelques ostraca du Nouvel Empire, font état de ce calendrier où on mentionne quelques extraits. Troisième jour du premier mois d'Akhet. Quiconque naît ce jour-là mourra par le crocodile. Sixième jour du premier mois d'Akhet, quiconque naît ce jour-là mourra piétiné par un taureau. Onzième jour du premier mois d'Akhet, quiconque naît ce jour-là ne vivra pas. Treizième jour du premier mois d'Akhet, quelconque naît ce jour-là mourra par aveuglement. Quatrième jour du deuxième mois d'Akhet, quiconque naît ce jour-là mourra d'éruption cutanée. Cinquième jour du deuxième mois d'Akhet, quiconque naît ce jour-là mourra en copulant. Sixième jour du deuxième mois d'Akhet, quiconque naît ce jour-là mourra en étant sous. Septième jour du deuxième mois d'Akhet, quiconque naît ce jour-là mourra en terre étrangère. Neuvième jour du deuxième mois d'Akhet, quiconque naît ce jour-là mourra à un âge avancé.
Ce n'est qu'un extrait. Ce n'est qu'un extrait de cet horoscope calendrier, peut-on dire, Amandine Marshall. Ça montre vraiment que ces Égyptiens croyaient que le destin était scellé à la naissance.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment une conception très égyptienne. Alors, juste attention, quand on parle d'horoscope, il faut faire attention à ce qu'on met derrière, puisqu'effectivement, ce n'est pas un horoscope qui est basé sur l'astronomie ou l'astrologie. C'est un horoscope qui est en fait immuable. Et donc, c'est un calendrier qui est supposé, donc, avec des jours fastes et néfastes, qui sont supposés donc revenir d'une année sur l'autre, avec effectivement la détermination de la vie de la personne, éventuellement de la façon dont elle mourra, pas forcément du temps, mais de la façon dont elle mourra d'une journée sur l'autre.
Oui, c'est très précis, effectivement. Alors, comment tente-t-on, à partir de là, de protéger ce petit être qui est né ?
Alors, on a un conte qui est le conte du prince prédestiné, qui annonce en fait à un roi et une reine que leur enfant mourra soit par le crocodile, soit par le serpent. Soit par le chien. Alors on n'a pas la fin, donc il nous manque vraiment les quelques dernières lignes, donc on ne sait pas si finalement le destin va s'accomplir ou pas, mais ce qui paraît quand même assez clair, c'est qu'effectivement une fois que ça a été fixé par les déesses du destin que l'on appelle les sept Hathor, normalement, le destin est immuable. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est pas parce que c'est quelque chose qui est écrit et qui est supposé arriver qu'on va pour autant baisser les bras. Ou les Égyptiens n'ont pas du tout cette mentalité. Au contraire, vraiment, ils sont déterminés à se battre pour que leur enfant puisse vivre. Et donc, ils se battent aux côtés des médecins, des magiciens, en sollicitant donc de façon régulière les dieux, pour que justement leur enfant ait une chance de survivre, ce qui était une gageure à ces époques où effectivement les taux de mortalité étaient particulièrement élevés chez les enfants.
Alors est-ce que ça peut se ressentir sur l'alimentation qu'on va leur donner ?
Alors pas forcément. En ce qui concerne les enfants en bas âge, donc bien évidemment ils étaient allaités, donc d'une certaine façon, ils étaient protégés par les anticorps de la mère. Donc, ils avaient une période qui était, on va dire, qu'entre vraiment le moment de la naissance, on a donc énormément d'enfants qui décèdent vraiment, vraiment au moment de l'accouchement, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Donc là, on a un premier pic et on va retrouver un second pic très fort de mortalité infantile à partir du moment où justement on change d'alimentation. Donc on ne fait pas forcément vraiment attention à l'alimentation de l'enfant. L'allaitement paraît vraiment la solution la plus naturelle et puis la plus économique aussi qui soit. Mais par contre, à partir du moment où on passe à une alimentation semi-solide, ou solide, on voit, et on le voit notamment dans les cimetières, qu'on a de nouveau une résurgence de la mortalité infantile.
Alors vous abordez beaucoup de choses, Amandine Marchal, dans votre livre, donc Maternité et petite enfance en Égypte ancienne, notamment le devenir des enfants mal formés et handicapés. Il nous reste une minute, hein, donc on ne pourra pas aborder de façon très précise tout ça, mais vous nous prouvez que finalement, il n'y a pas une attitude différente. On reste parents et on n'exclut pas ces enfants handicapés.
Non, alors ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'on le voit par exemple par rapport à la Grèce ou à l'Italie antique où on pratiquait l'exposition qui très souvent conduisait à la mort de l'enfant ou au fait qu'il devienne esclave. En Égypte ancienne, pas du tout. Les enfants sont vraiment considérés comme des dons des dieux, donc on s'en occupe même s'ils sont handicapés et on voit que vraiment ils sont pas du tout
exclus
ni de leur foyer ni de leur communauté. Alors ça on le voit notamment dans les cimetières où on voit que les enfants qui sont nés avec des pathologies, des malformations diverses et variées sont vraiment inclus et protégés finalement par leur communauté.
Allez, pour en savoir plus, nos auditeurs iront lire et découvrir votre livre, Amandine Marchal, Maternité et petite enfance en Égypte ancienne aux éditions du Rocher. Et puis, je donne aussi le titre du livre précédent, Être un enfant en Égypte ancienne, toujours aux éditions du Rocher. Merci d'avoir partagé cette première partie d'émission. Merci Philippe Lodenbach de nous avoir fait entrer au cœur de l'Égypte ancienne grâce à votre voix. Et puis, vous restez avec nous parce qu'on n'a pas fini. On va découvrir, on va partir dans un siècle plus rapproché, le 19e siècle. Et vous allez voir la voile, la vapeur, les bateaux.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, avec pour commencer l'année notre partenaire pour la science qui offre un numéro de janvier très riche, comme toujours, avec un dossier principal qui répond à la question « Pourquoi rêvons-nous » et propose de nombreux sujets, comme par exemple la physique du champagne, comment les astrophysiciens travaillent sur la détection de la lumière des étoiles disparues, ou encore des articles sur les carburants solaires pour la transition énergétique, l'impact réel du réchauffement climatique sur l'ours polaire, il y en a pour tout le monde, et surtout en page 70, l'article « Histoire des sciences » qui nous fait découvrir la vie et l'œuvre d'un passionné de construction navale du 19e siècle, Edmond Paris. Bonjour Géraldine Baron.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes archiviste, paléographe, conservatrice à la bibliothèque de l'Université du littoral Côte d'Opale à Calais et auteur de cet article intitulé « Edmond Paris, de la pirogue au bateau à vapeur ». Alors il faut dire que vous avez soutenu il y a quelques mois, hein, en 2015, votre thèse de doctorat qui portait justement sur la vie, l'œuvre de cet homme. Un sacré personnage quand même, hein, qu'on figure incontournable de la marine, pilier de la transition du bateau à voile vers le bateau à vapeur, mais aujourd'hui méconnu.
Oui, c'était une célébrité en son temps et peut-être parce qu'il a vécu très vieux et qu'il est mort de sa belle mort, on l'a oublié. Alors il est encore connu des maquettistes, des modélistes et des ethnologues qui s'intéresse, comme vous l'avez dit, aux bateaux traditionnels, des pirogues océaniennes, mais aussi des bateaux traditionnels des côtes de France. Il est beaucoup moins connu pour son action dans la transition de la voile à la vapeur, qui a pourtant été sa principale activité au cours de sa carrière.
Alors il faut dire que là, on a affaire à un homme complètement passionné, mais dans sa jeunesse, c'est un jeune homme qui a été envoyé au Collège Royal de la Marine par sa famille, et finalement c'est ce choix familial qui va être à l'origine de sa vraie passion.
Oui, il n'y avait pas de prédisposition, pas de passion a priori, même s'il a résidé quelques années à Brest et que peut-être il a navigué dans la rade.
Peut-être.
Voilà, là on extrapole, mais peu importe. Il n'y avait pas d'antécédents familiaux. Sa famille maternelle comptait quelques armateurs, mais pas de marins. Donc c'est plutôt un concours de circonstances, une famille qui revient un peu ruinée à la chute de l'Empire et qui cherche à assurer une carrière et une aisance financière à son fils aîné et qui l'envoie donc au Collège Royal de la Marine à Angoulême. C'est pas encore à Angoulême qu'il découvre la passion, puisqu'il n'y a pas de bateau forcément.
Par contre, il se révèle doué pour le dessin et les mathématiques.
Alors, il avait quelques prédispositions. Sa mère était artiste et là, visiblement, lui a transmis son don. C'est ces prédispositions qui ont certainement influencé le choix, puisque c'était la base de l'enseignement pour les futurs officiers de marine. Il fallait savoir dessiner pour pouvoir lever des cartes.
Oui.
Et puis, il fallait maîtriser les mathématiques pour pouvoir calculer les positions en mer. Deux éléments fondamentaux d'un bon navigateur.
Et alors, il va embarquer pour sa première grande aventure sur l'Astrolabe en 1826, à une corvette commandée par Jules Dumont-d'Urville, et pas des moindres donc, et qui part pour une mission d'exploration dans le Pacifique. Et là, il va revenir avec ses premiers dessins de pirogue.
Tout à fait. Il a eu une chance inouïe, parce que c'est quand même la meilleure école. Ouais. Un voyage autour du monde, surtout avec une figure comme Dumont-d'Urville, qui lui, pour le coup, a eu la chance de mourir jeune, donc d'être entré dans la légende. Bon, pour d'autres raisons aussi, mais... C'est Dumont-d'Urville qui, reconnaissant son talent de dessinateur, lui propose, dans le cadre de sa réflexion sur le peuplement des îles océaniennes, de relever les plans ou de dessiner les bateaux qu'il rencontrerait lors de cette mission de découverte du Pacifique. Mission que Paris a effectuée avec...
Brio,
bon, on peut le dire,
hein, oui, parce qu'il s'est fait distinguer et du coup, il va repartir peu après, 3 ans autour du monde sur la Favorite, commandée par Cyril Laplace en tant qu'hydrographe et pour faire des dessins. Mais alors, ce qui est intéressant, parce que comme vous le disiez, Géraldine Baron, finalement, pour ceux qui le connaissent, on le connaît vraiment à travers ses dessins de pirogue, mais alors on méconnaît l'homme qui a basculé vers le bateau à vapeur.
Oui, alors ça c'est au retour de la Favorite, il est affecté à Paris au dépôt des cartes et plans pour finir de dessiner ses cartes.
Oui.
Et puis on ne sait pas vraiment pourquoi, on n'a pas de source qui nous permette de l'affirmer précisément, mais il suit les cours au Conservatoire des Arts et Métiers, les cours de physique, les cours de chimie, il découvre la machine à vapeur et sans doute bien conseillé, il effectue un voyage en Angleterre, qui était un passage obligé pour les jeunes officiers qui s'intéressaient un tant soit peu à la vapeur, puisqu'en France, il n'y avait aucune structure de formation sur la navigation à vapeur. C'était quelque chose de très récent. Même les machines étaient importées d'Angleterre, donc c'est en Angleterre que ça se passait, c'est en Angleterre qu'il fallait aller se former.
Et du coup, il va quand même chercher à se documenter et à travers le monde partir en quête de connaissances. Alors, vous citiez l'Angleterre, mais c'est en Inde que lui, sa passion de la technique moderne va lui coûter quand même son avant-bras gauche. Hein. Bon, l'Inde, l'Angleterre, très liée à l'époque, bien sûr. Et c'est un homme qui bénéficie à cette époque aussi d'un soutien majeur, celui du baron Jean Tupinier, directeur des ports et des arsenaux. Alors, c'est un pionnier. Qui fait basculer la société de la voile au bateau à vapeur. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui doit en matière d'innovation navale? Est-ce qu'on a une idée de vraiment ce qu'il a imaginé? Parce que, finalement, il ne reste pas grand-chose de tout ça.
Non, pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas imaginé grand-chose. En fait, certains officiers ont été des inventeurs, ont vraiment révolutionné la conception du navire. Lui n'était pas un grand inventeur, il était surtout un praticien, un bricoleur. Donc il a surtout perfectionné l'outil.
D'accord.
Il se positionnait en particulier par rapport aux ingénieurs, qui étaient les concepteurs des nouveaux navires, mais à qui il reprochait de ne pas naviguer. Donc il concevait des outils qu'il n'utilisait pas. Et il avançait l'argument que ces ingénieurs avaient besoin du soutien des marins, qui eux avaient la maîtrise de leurs bateaux, d'autant plus que les bateaux à vapeur étaient en général testés par mer calme, sans vent, donc bien sûr pas du tout dans les conditions quotidiennes de navigation.
Oui.
Donc la vraie valeur ajoutée de son expérience de marin, c'est d'avoir su ajuster le bel outil que les ingénieurs avaient conçu pour l'adapter à la pratique, tout simplement.
Donc améliorer la conduite des bateaux à vapeur, réduire le nombre des accidents, parce que là aussi, il y avait d'énormes dangers avec ces machines à vapeur. Et il en a fait l'expérience à un moment, avec l'explosion de la chaudière sur la Visou Comte 2, hein, c'est ça. Il y a eu 11 morts. En tout cas, c'est un homme qui va surtout produire aussi les premiers manuels techniques à destination des marins et faire en sorte qu'il y ait aussi une meilleure formation des hommes. Là, il joue un vrai rôle.
En effet, il bricole d'abord, donc il expérimente lui-même et il prend conscience de la nécessité de transmettre la connaissance qu'il a obtenue sur le terrain à ses confrères qui n'ont pas eu la chance de séjourner à Paris et donc de suivre les cours du conservatoire, qui n'ont pas eu la chance de faire le voyage en Angleterre et qui n'ont peut-être pas eu la patience ou la curiosité de changer le régime des pistons, d'aller bricoler dans le corps de chauffe ou sur les différentes pièces de la machine. Donc il va synthétiser l'ensemble de ses lectures, l'ensemble de ses expériences, rassembler les informations qu'il peut obtenir des autres navigateurs, donc en particulier la consommation de charbon, la vitesse, les différentes caractéristiques des bâtiments. Synthétiser toutes ces informations pour proposer des recommandations. Il va aussi rédiger un dictionnaire pour harmoniser le vocabulaire, puisque dans une nouvelle technique, qui dit nouvelle technique dit nouveau vocabulaire, oui. Et il faut bien que les hommes s'entendent. Donc les mécaniciens qui sont formés à terre n'ont pas le même vocabulaire que les marins.
Oui, c'est un peu
donc il faut que tout le monde se mette d'accord et parle le même langage.
Et donc être un passeur de savoir finalement, aussi.
Exactement.
S'est transformé en passeur de savoir. Donc cet homme de la transition, reconnu en son temps, hein, honoré notamment par le premier prix de l'exposition universelle de 1855, membre de l'Académie des sciences et d'autres institutions. Et alors, il faut aussi ajouter dans cette dernière minute qu'il nous reste, Géraldine Baron, que retraité, il prendra la direction du musée de marine du Louvre de 1871 jusqu'à sa mort survenue le 8 avril 1893. Et là, il a juste la conscience formidable de faire en sorte que tout soit conservé. C'est-à-dire les maquettes des pirogues, les dessins, laisser trace de ce patrimoine, parce qu'aujourd'hui, s'il ne l'avait pas fait, on n'aurait même pas vent de cette histoire-là.
Oui, parce que tout simplement, quand il a fait le tour du monde avec Dumont d'Urville, il a pu observer des pirogues qui, quelques années plus tard, quand il a voyagé avec Laplace, avaient déjà disparu. Et puis, il a vécu vraiment une succession de techniques au cours de sa carrière qui s'effaçaient les unes devant les autres. Un nouveau modèle chassait l'autre et on en oubliait la culture, on en perdait la trace, sauf dans les archives de la marine, mais qui sont quand même assez peu accessibles. Donc il a, grâce à ce musée, fait un vrai conservatoire de l'art naval.
Et donc, grâce à vous aussi, Géraldine Baron, on peut aujourd'hui se régaler avec cette histoire à retrouver dans le magazine Pour la Science, numéro de janvier. Et toutes les informations et les liens sont sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences. Et vous pouvez aussi réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an, nous suivre sur Twitter et désormais, autre nouveauté 2016, nous suivre aussi sur la page Facebook. Et c'est la fin de La Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Émission préparée par la fidèle équipe de La Marche, Catherine Donnet, attachée d'émission, Anaïs Morales, documentaliste sonore et qui tient le site Facebook et avec la complicité de Philippe Lodenbach. À la réalisation, Alexandra Malka, la technique Thibaut Germès, si j'écorche le nom. La semaine prochaine, dans une semaine spéciale Bac sur nos antennes, retenez bien, nous serons en compagnie de professeurs, chercheurs, spécialistes de la matière SVT, sciences de la vie de la Terre. Tout cela pour s'intéresser à SVT, que faire après le Bac, c'est jeudi prochain. D'ici là, demain, autre rendez-vous science à 16h. Nouvel horaire pour toute la tranche science de France Culture, c'est Michel Alberganti qui vous attend avec Science Publique. Et à 17h, vous avez rendez-vous avec Sur les Docs, mais tout de suite, les bonnes feuilles.